Ce soir, une heure bleue particulière en compagnie de Madeleine Riffaut. Madeleine Riffaut, nous sommes allés la voir avec Lilian Allôme, chez elle, à Paris. Elle fut résistante, elle est toujours poète et écrivain. Elle fut pendant des décennies correspondante de guerre sur tous les théâtres de guerre après la libération. Elle nous a reçus chez elle à l'occasion de la publication du premier tome d'une magnifique bande dessinée qui lui est consacrée, intitulée « Madeleine, résistante », premier tome « La rose découpillée », et à l'occasion aussi de la ressortie de son livre publié en 1974, consacré au monde hospitalier et intitulé « Les linges de la nuit ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Leonard Cohen, Partisan.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme.
Merci de nous recevoir chez vous, Madeleine. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue?
Ah oui, alors. Bien sûr. La vie, elle est belle, finalement. Il faut savoir la regarder. C'est tout.
Vous avez eu combien de vies? Il y a eu les vies d'avant. Ben, je voudrais écoutez, commencer par le début.
Alors, j'ai été Madeleine quand j'étais petite. Mes parents étaient instituteurs de village et mes grands-parents étaient ouvriers agricoles. C'était une promotion. Là, on m'appelait Madeleine. Après, pour la résistance, j'ai été Rainer de 41 à 44. Et après, très très longtemps après, j'étais redevenue Madeleine pour les articles et reportages de terrain. On m'appelait de mon nom.
Vous êtes croyante, Madeleine?
Oh, ça, C'est compliqué.
Bah, je vois des vierges, là, dans l'appartement.
Oui, mais ça, c'est mon oncle, antiquaire. Il m'amenait toujours des trucs de catholicisme primitif, enfin, en tout cas, 18e, 19e. Je lui disais, mais pourquoi tu me mènes ça? Toi, t'es athée comme pas un, et tu m'amènes des bons dieux. Il me disait, parce que c'est pour t'apprendre. Toi, t'as des bouddhas partout, t'as des trucs, t'as ramené d'Asie. Et pourquoi t'aurais pas des trucs de catholicisme populaire? Moi, j'en trouve, je les apporte, il faut mettre les deux.
Donc, il y a les deux. Chez vous, il y a les
Donc,
deux.
Donc, il y a les deux.
Et enfin, vous croyez plus à Bouddha qu'à Jésus-Christ?
Oh là là, je crois que personne ne sait ce qui se passe là-haut, ni en bas. Vous savez, ça c'est des trucs hyper intimes, et surtout qu'on ne contrôle pas. Quand j'étais petite, ma maman, elle était sceptieuse. À 5h du matin, elle allait à la messe. Elle était institutrice laïque. Elle voulait le rester. Elle n'osait pas, elle ne voulait pas que les gens du village voient madame l'institutrice à la messe le dimanche. Elle avait peur que ce soit une atteinte à la laïcité. Alors, elle y allait à 5h du matin. Alors, évidemment, elle m'a fait passer par tous les salles, baptême, première communion, confirmation, et tout ça.
Est-ce que c'est parce que beaucoup de gens vous aimaient quand vous étiez petite fille, puis très jeune adolescente, que vous êtes si tôt engagée dans la résistance, Madeleine?
Eh ben là, c'est une autre aventure. C'est une autre vie. Je vous disais tout à l'heure, c'était Madeleine, Rainer et Marthe.
Alors voilà. Rainer, c'est parce que Rainer Maria Rilke, que vous voilà. Étiez amoureuse
J'aime
du poète.
Roses. J'aime les roses. Lui aussi, il aimait les roses. Et moi, mon grand-père, il avait fabriqué autour de l'école de mes parents une roserie. Il y avait des roses, toutes les sortes. Il faisait se croiser les roses. Il inventait des roses. C'était un type extraordinaire. Le premier poète que j'ai connu. Je l'aimais beaucoup.
Donc Rainer, c'était le nom que vous avez pris pendant la résistance.
Oui.
À quel âge vous êtes rentré dans la résistance?
Oh ben, j'ai commencé, j'ai essayé d'entrer. C'est pas commode, vous savez, d'entrer dans un réseau. Ça a toujours été un problème.
Comment? Et on n'en parle pas assez de ça, de cette période-là et de la difficulté pour les personnes de rentrer, de vouloir
rentrer. Je me souviens, j'ai été lieutenant.
Lieutenant.
Je suis fier. J'ai fait lieutenant le jour de mes 20 ans.
Lieutenant à la libération, ça voulait dire quoi concrètement, Madeleine?
Eh ben, quand j'étais condamnée à mort, j'ai échappé plusieurs fois, grâce à des coïncidences, on me disait, ah non, pas ce matin, t'as une confrontation. Moi, j'avais toujours fait croire aux Allemands que j'étais pas résistante, que j'étais une nanette un peu déséquilibrée, qui avait perdu son fiancé, et qui avait voulu, dans sa douleur, se venger, en somme. Et j'avais fini par me croire. À la fin, l'officier qui tenait mon dossier, qui parlait un français parfait, m'a dit, nous te croyons, mais tu nous as tué un homme. Alors, le 5 août, il sera fusillé. J'ai dit, merci, monsieur. Bon, ce merci, monsieur, il faut comprendre. Je ne voulais pas repasser à la torture. Et comme un témoin m'avait reconnu sur photo, c'était en opération, il a dit, mais elle est résistante. Elle vous a fait croire qu'elle n'est pas. Elle est. Elle commande même à des adolescents. J'ai vu, moi, de mes yeux. Alors là, le gentil officier, si on peut dire, SS, il m'a dit, bon, alors, vous nous avez roulé dans la farine, comme vous dites, vous Français. Vous n'êtes pas une petite jeune fille amoureuse, malheureuse, qui s'est vengée dans un moment de folie. Donc, vous êtes résistante. Alors maintenant, on repart à zéro. On fait un autre dossier. Vous, résistante. Et là, on va vous couper un morceau, mais vous parlerez. Vous savez, pour peu que j'ai fréquenté les Allemands, ils ont un côté très furbeux. Ils aiment les histoires d'amour. Ils avaient trouvé que la mienne était bien jolie. Et finalement, il y avait quelque chose d'indéfinissable autour de ça. Mais après, quand ils ont vu qu'ils avaient trompé, alors là, évidemment, c'était ma fête.
Comment avez-vous résisté à la torture ? J'ajoute qu'on est chez vous et que chez vous, ça veut dire pas seulement des vierges et des bouddhas, mais ça veut dire aussi des petits oiseaux dans une grande cage qui accompagnent votre récit, Madeleine.
Oui.
Ils s'appellent comment, les petits oiseaux ?
Un oiseau n'a pas de nom.
Ah, pardon.
Non.
Pardon.
J'aime les oiseaux et j'aime les fleurs.
J'aime ça se voit, il y en a beaucoup dans votre appartement.
J'aime les plantes.
Comment avez-vous trouvé la force de résister à la torture ?
On savait, vous savez, quand on entre en résistance, que ça serait difficile. On était prêts à être arrêtés. On en parlait entre nous. Et on avait reçu une petite brochure qu'on se passait l'un à l'autre. Ça s'appelait « Comment se défendre ?» Et on nous expliquait, à nous qui étions jeunes, comment faire. D'abord, vous dites, je ne suis pas résistante. Vous finissez par vous imprégner de cette parole. Vous faites un lavage de cerveau à vous-même. J'ai tout oublié, je ne parlerai pas, je ne sais rien, je ne peux pas parler.
Donc, et vous, pourquoi n'êtes-vous pas morte ? Pourquoi ils vous ont laissé la vie sauve ?
C'est tout le coup, vous savez, on me dira... Vous avez été arrêté le 23 juillet, la libération était le 25 août, vous n'êtes pas resté bien longtemps, 4 semaines, 5 au plus.
Mais c'est beaucoup, 5 semaines de torture.
Ça dépend, oui, quand on est arrêté en flagrant délit d'avoir abattu un gradé allemand devant tout le monde comme ça, un dimanche, sur ordre. Hein. S'il ne faut pas faire ça...
Oui, mais vous l'avez fait, même si c'était sur ordre, vous l'avez fait.
Oui, j'ai fait. J'étais bien malheureuse, voilà. J'avais envie de pleurer.
De tuer le nazi.
Tous les gens qui ont fait ça, on peut trouver une raison. On peut dire, ah, il avait eu deux copains fusillés deux jours avant. Moi, j'avais eu un homme, il s'appelait Martini. C'était un type formidable, un étudiant en médecine. Lui, il savait organiser tous les coups de main, tout ça. Et c'est un gars épatant. Sans lui, on était foutus. Il a laissé la vie à un soldat allemand qu'il aurait pu abattre. Mais c'est un petit vieux, enfin, un petit vieux pour nous qui avions 18 ans, ou plus 25. Les nazis, à l'époque, n'avaient plus de troupes suffisantes. Alors, ils mobilisaient les très jeunes, 17, 18 ans. Ils envoyaient dans l'enfer de Stalingrad, l'enfer blanc, où ils avaient les mains gelées, les pieds gelés. Par contre, ils envoyaient sur Paris pour faire du gardiennage. Ils avaient exigé les garages et ils mettaient des armes, des trucs à eux. Et puis, on avait eu, par notre service de renseignement, dans le 13e arrondissement, il y avait un petit garage assez mal gardé, plein d'armes. Alors évidemment, on s'est mis d'accord avec les camarades du 13e et 14e pour attaquer ce petit garage et prendre des armes. Alors, le Martini en question, c'est lui qui a organisé. Et le lendemain, il vient dire à notre chef, il s'appelait Paul, qui a été plus tard chef de service à la rue Boisère. À l'époque, il était interne. Et moi, je travaillais avec lui. Donc, on était tous les deux à notre rendez-vous quotidien. La nuit, on était derrière le Panthéon. Et voilà Marty qui arrive. Il nous dit, ça s'est bien passé hier. On a ramassé toutes tes armes. Paul lui dit, tu n'as pas de blessés ? Non, bien sûr que non. La peur a changé de camp. Ils ont tous levé les mains en l'air, haut les mains, allez hop, comme ça. On n'a pas tiré un seul coup de feu. C'est bon. On n'avait pas envie de tirer des coups de feu. Mais on n'a pas tiré. Et alors, bon, c'est très bien. Raconte-moi un peu. Ça a duré combien de temps? Oh, un quart d'heure. On a tous emmené. Mais ça n'a pas profité. On a un mot d'ordre en ce moment de tuer des Allemands publiquement en vue de l'insurrection populaire. Écoute, Paul, l'officier, c'était un vieux, il avait au moins 60 ans. Il avait les cheveux gris et j'ai pris un peu comme ça dans la porte que c'est, pour qu'il n'agisse pas, et je tournais le dos au copain qui était en train de charger les armes. Il t'a regardé? Ben oui, il pleurait. Il m'a dit, pardon, pardon, monsieur, pardon. Il m'a dit, et quand je montais mon revolver, il disait, non, non. Je lui ai dit, allez, va te faire tuer ailleurs. Je lui ai donné un petit coup de pied, j'en étais bien. Et voilà. Et voilà. Ah, ben dis donc, ne remets plus les pieds au gratin pendant 15 jours au moins, hein. Je ne peux plus te voir. Change ton apparence et tout. Tu es très reconnaissable. Ils vont te reconnaître. C'est très dangereux, cette affaire. C'est pas bien. Le copain, il en a, il se dit, à bon temps, j'ai un rendez-vous avec un petit jeune, il voulait s'enrôler chez nous, à Sully-Morland, à côté de la morgue. Bah, c'est pas le quartier latin, après tout. C'est de l'autre côté de la Seine. Eh ben, je vais y aller, tiens. Il dit à sa mère, ah, je vais mettre mon costume propre. J'en ai marre de ce vieux blouson. Sa maman lui dit, ah non alors, tu vas pas un mercredi prendre ton costume neuf. La dernière fois, tu l'as pris, t'es revenu, t'avais de la colle, je sais pas quoi, dessus. J'ai mis des heures à le nettoyer. Laisse-le là, s'il te plaît. Alors, Martini, il était très courageux. Mais il avait peur de sa maman. Oui, c'est comme ça.
Et vous, quel sentiment
eh
vous...
Ben, attendez, il a été tué dans le dos par l'homme à qui il avait laissé la vie, qui est passé par hasard sur le boulevard en face et qui, au feu rouge, il l'a reconnu. Il a fait arrêter le camion, il a pris Martini derrière et il m'a tué de plusieurs balles. Alors, moi, à plus forte raison, je devais faire cet acte difficile pour relever le moral des garçons.
Non, je voulais savoir quel sentiment vous avez envahi le jour de la libération et comment vous avez vécu les moments d'après.
Le jour de la libération, j'étais avec la compagnie Saint-Just. J'avais été affectée dans des EVM. On était devenus très nombreux. Il fallait quelqu'un pour diriger. Alors, notre commandant, le commandant d'Harcourt, a envoyé trois garçons, étudiants, dont moi. Nous étions des vieux combattants.
C'est-à-dire quoi? Vous aviez 18
ans? On avait fait la lutte armée depuis 2 ans. On nous a envoyés là-bas. À la fin.
C'est ce qu'on a appelé les résistants de la dernière heure.
Non, non, je ne dirais pas ça. Ceux-là ont été à l'hôtel de ville. Ils ont fait tamponner leur carte d'identité. Ils ont dit qu'ils étaient résistants. C'est pas vrai. Ceux-là m'ont dégoûté d'en faire autant. Je n'ai pas déclaré rien du tout.
Vous n'avez pas été vous faire tamponner. Vous n'avez jamais été reconnue comme résistante. Vous n'avez pas voulu.
J'étais tellement écœurée que je n'ai pas été. Le colonel Rotangui me l'a reposé beaucoup plus tard. Il m'a dit, alors, je t'ai fait lieutenant sous le feu quand t'as fait 80 prisonniers avec 4 hommes et toi, t'as pas fait tamponner ton brevet de lieutenant. Et maintenant, t'aurais une pension militaire de lieutenant au lieu d'avoir une pension militaire de deuxième classe.
Avez-vous l'impression, Madeleine, qu'aujourd'hui, la mémoire de la résistance soit bien transmise vers les jeunes générations et qu'on reconnaît assez le rôle des résistantes, plus particulièrement, et des résistants? Parce qu'on parle assez peu des femmes dans la résistance, dans les manuels d'histoire.
Oui, mais en 94, quand on a été réquisitionnés, en somme, pour parler de la résistance, on a témoigné dans les écoles, dans les amphithéâtres, partout. Moi, j'ai même témoigné en Italie, en Allemagne, en Belgique. On a rétabli la vérité. Il y a eu, pendant 3-4 ans, là, à partir de 1994, des musées, des livres. On a reparlé de la résistance. Mais la résistance, moi, je n'en parlais plus. Et puis là, je sais pas ce qui se passe. Après cette pandémie, après tous ces malheurs, les gens se découvrent avec stupeur, avec plaisir, mais avec étonnement. Je vois bon, leur comportement avec moi. Moi, j'étais bien tranquille, on peut dire, à la maison. Mais j'avais terminé mon boulot depuis longtemps. Je croyais qu'on n'avait plus besoin de moi. Et tout d'un coup, c'est un peu le démarrage qui a été causé par Saint-David, Morvan.
Voilà, c'est vrai qu'il y a ce livre extraordinaire qui vient de paraître, signé de Bertaille, Morvan et de vous aussi, Madeleine, qui s'intitule Madeleine résistante. C'est un livre absolument remarquable, non seulement par la beauté de la conception artistique, mais aussi par la restitution de l'histoire de Madeleine. Vous avez fait, vous, un travail incroyable de documentation de la vie de Madeleine. Je dois vous avouer, Jean-David, que je connaissais le nom de Madeleine parce que c'est une très grande journaliste. Mais on reviendra vous voir dans quelques temps au moment du numéro 2 parce que là, c'est que le premier tome consacré à la période la guerre et de la résistance. Mais j'ignorais la période de Madeleine pendant la guerre, son courage, sa force à la fois d'esprit et son intransigeance et son amour de la liberté. Et grâce à vous, on peut tout d'un coup se rendre compte du statut et de l'importance du personnage de Madeleine. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, qui avez quoi, 40 ans, à vous intéresser à Madeleine et à la replacer dans notre récit national et dans notre histoire nationale?
C'est difficile à dire. Avant, j'avais fait une bande dessinée qui s'appelait Irena, qui était sur une dame qui avait sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. J'avais été très frustré parce que j'avais pas pu la rencontrer, puisqu'elle est morte en 2008. Et quand j'ai vu un documentaire qui s'appelle Résistante au pluriel, dans lequel il y a Madeleine, mais aussi Marie-Jo Chombard-Delauve et Cécile Roll-Tanguy, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie fabuleuse qui émanait de Madeleine, et je me suis dit, pour la première fois que je vois un documentaire à la télé, il faut que je la contacte. Donc j'ai trouvé un moyen de la contacter. Au début, quand je lui ai dit que je voulais faire de la bande dessinée, elle m'a quand même un peu envoyé bouler parce que c'était pas vraiment son habitude. Elle m'a dit, oh, on m'aura vraiment mise à toutes les sauces. Rappelez-moi plus tard. Donc finalement, j'ai osé rappeler au bout de 15 jours. Et heureusement, il y avait son copain qui fait des films qui s'appelle Georges Amat, qui l'avait eu entre-temps et qui lui avait dit, mais Madeleine, t'es complètement con. La bande dessinée, c'est super pour le message que tu veux faire passer. Donc dis-lui qu'il faut en faire. Donc comme elle savait qu'elle était con, elle m'a dit de venir. Et donc on a commencé à travailler ensemble. C'était en 2017 et depuis, on travaille toujours. Même hier soir, il y avait des nouveaux souvenirs et tout ça.
Des nouveaux souvenirs qui vous arrivent à vous parce que vous parlez avec Jean-David.
Oui.
Donc, il fallait parler, même si vous avez attendu l'invitation de Raymond Aubrac en 94.
Oui. Après, j'ai parlé pendant longtemps, partout.
Vous auriez pu oublier, mais vous avez une mémoire de dingue, d'enfer, Madeleine.
Ah ben, je vais vous dire un truc que je dis jamais. Je n'ai jamais vu les dessins de Dominique pour la bande dessinée.
Mais c'est très beau.
Je ne peux plus voir. C'est un accident de reportage. C'est dur, correspondant de guerre. On ne les a plus. Cette année-là, il y a eu 82 reporters de tous les pays tués au Vietnam. Et moi, je n'ai pas été tué. C'est en Algérie que j'ai été sur un attentat de l'OS contre moi en 62, 4 jours avant le vote définitif pour les Algériens qui était pour leur indépendance qu'on avait négocié à Évian. L'OS était fâché et tuait tout le monde pour arriver à briser le cessez-le-feu et qu'on recommence. c'est sûr que personne ne voulait aller dans la ville de Rouen, parce que elle était aux mains de l'OAS, elle s'est récapitulée déjà, et ils faisaient terre brûlée. Ils voulaient brûler tout ce qui avait été la ville européenne, les hôpitaux, l'école, tout brûlait. Moi, j'aime pas qu'on m'interdise quelque chose. Or, l'OAS avait dit, aucun journaliste de la métropole n'est bienvenu à Oran. Si l'un d'eux vient, il sera abattu sur le sang. Il m'avait déjà condamné et m'avait jamais trouvé. Je signais Jean Reiner. Un de mes copains avait infiltré l'OAS et me disait, t'inquiète pas, il cherche un homme. Il cherche un homme pour le tuer. Ils n'ont pas compris, c'était toi. Alors t'inquiète pas. On est tombé dans un guet-apens. Ils avaient bien calculé leur coup. C'était une ville impossible. Et là, tout d'un coup, se trouvait une ville en proie à la haine raciale. C'était affreux, affreux. Les guerres, ça s'allie toujours. En tout cas, celle-là, je n'ai jamais vu dans ma vie une guerre aussi sale que celle-là. Enfin, nous, pour faire court, on s'est pas méfié. Et pendant qu'on roulait, avec la petite de la FPX, François aussi derrière, je vois un camion de type militaire, lourdement bâché, énorme, qui, tout d'un coup, il a se déboîté, exprès, et il nous a percutés de plein fouet. La voiture était en miettes. Et nous, je vous dis pas. Il y avait une dépêche qui avait dit, deux journalistes sont perdus à Oran. L'un, c'est Jean-Pierre Farkas. L'autre, c'est une femme. Elle est morte. Moi, j'avais laissé mes papiers. Ah, je suis pas dingue. Elle est morte. Et puis finalement, bon, on a été ramassés grâce à une collègue de Suédoise. Elle nous a sauvés.
Et vous êtes vivante aujourd'hui.
Mais oui, seulement mais maintenant, c'est pas marrant.
Pas marrant. Alors justement, j'ai deux questions à vous poser avant de terminer cet entretien.
Oui.
La première, c'est est-ce qu'on peut revenir? Et la seconde, c'est comment vous vivez les temps d'aujourd'hui, ces temps très troublés au niveau des opinions
Oui. Alors, première question.
Est-ce qu'on peut revenir?
Comme vous voudrez. Bon. La porte est ouverte.
Merci beaucoup.
Et j'aurais peut-être une meilleure voix.
Bah, elle est pas mal, votre voix, hein? J'aimerais bien avoir votre voix à votre âge. Hein.
Arrêtez de parler de mon âge. Depuis.
Ah, c'était sûr.
Vous êtes la plus jeune d'entre nous.
Non, mais avec...
Dernière question, comment vous ressentez la vie aujourd'hui, là, l'opinion publique, l'atmosphère générale?
Ça ne me fait pas beaucoup de bien. On a republié un livre de moi qui est d'actualité.
Les linges de la nuit.
Oui. Eh ben, celui-là, j'ai écrit quand j'avais 50 ans.
On reparlera des linges de la nuit parce que c'est vrai que c'est un témoignage qui a été suivi d'un immense succès et par rapport à l'hôpital public d'aujourd'hui,
oui,
cette réédition trouve résonance.
Oui, mais madame, la situation est la même. Ce qui se passe aujourd'hui dans les bas-fonds où on ne parle pas d'eux. On a marre de se laisser humilier. Il faut parler. Il faut dire. Voilà. Pas seulement dire des grandes paroles, les revendications, les tout ça, les machins. Il faut dire comment les hommes vivent. Voilà. Comment les gens vivent. Et en particulier, de la santé publique.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Alors d'abord, Madeleine, merci encore de nous recevoir à nouveau, parce que la première fois qu'on est venu chez vous, le livre « Les linges de la nuit » n'était pas encore ressorti. Mais ce qui est important, c'est le texte qui n'a pas pris une ride aujourd'hui, qui parle des conditions de l'hôpital au moment où vous, vous avez décidé, au retour de vos nombreux voyages en tant que reporter de guerre, vous avez décidé d'aller travailler dans un hôpital parce que vous étiez, vous saviez pas très bien ce que vous alliez devenir. Et engagé comme vous l'êtes, vous avez décidé de comprendre le fonctionnement social d'un hôpital. Et vous êtes rentré comme non qualifié, non qualifié.
Moi, j'ai commencé en 41. Il fallait que j'aie une carte d'étudiant en médecine. Je suis donc entré. J'étais élève, petite élève, petite bleue, à Port-Royal. J'aidais les bébés à naître la nuit. Et puis le jour, ben, je faisais la résistance, tout ça. J'ai commencé en bureau.
Au fond, vous vouliez être médecin.
Seulement, c'était long. J'étais fiancée avec un jeune homme qui allait être médecin. Il n'avait plus qu'un seul examen à passer. Il m'avait dit... C'est long, la médecine. Et puis, tu es malade. On était malades tous les deux. On était tuberculeux. Il ne voulait pas mourir dans son lit. Il voulait mourir en se battant. C'est pour ça qu'on était rentrés à Paris, trop tôt. Et moi, j'avais commencé là aussi. Je voulais vraiment être médecin. Je suis devenue élève sage-femme. Alors, j'ai travaillé là. Et puis... J'avais mon dernier examen passé, j'étais performante. Ça m'a bien servi par la suite. J'ai pu rendre service à des pauvres femmes qui n'arrivaient pas à accoucher dans leur rizière ou ailleurs. Quand le bébé se présentait mal, si je tombais par hasard dans le village, évidemment j'y allais. Je suis très calée pour tourner le bébé à l'intérieur du ventre de la maman, à la main. Et puis après, quand j'étais dans les hôpitaux de guerre, pendant très longtemps, car la guerre du Vietnam a duré très longtemps, eh ben, il y avait des hôpitaux souterrains. Et quand on descend là-dedans, il n'y a que des grands blessés. Il n'y a pas assez de personnel, évidemment. Ben, si on sait, on apprend vite. Moi, je sais très bien ça, les pansements. J'en ai fait à Orléansville, quand il y a eu le séisme. J'en ai fait au Vietnam. J'ai soigné des gens. C'était ma vie, ça.
Et quand vous êtes rentré à Paris du front de guerre en 1974, vous êtes donc engagé dans un grand hôpital parisien. Vous aviez commencé des études de médecine, mais vous avez demandé à travailler au niveau le plus bas, comme plus bas.
Dans un service dur, en chirurgie cardiovasculaire. J'ai voulu commencer comme fille de salle, comme on disait. Après, on a dit agent hospitalier. On prend n'importe qui pour ça. Il n'y a pas besoin de diplôme. On lave par terre, on fait plein de trucs. On nettoie les mains, on les fait manger, on les charrie aux différents examens. Enfin, c'est un métier que font en général les immigrés. Personne ne veut le faire. C'est mal payé et c'est très dur. J'étais contente de le faire.
Ben, quand on lit aujourd'hui la réédition de ce livre, on s'aperçoit qu'en 2021, les conditions hospitalières ont peut-être un peu évolué, mais qu'en même temps, la surcharge de travail, l'impossibilité de pouvoir accompagner les malades au mieux du possible ne sont toujours pas réunies. Donc votre texte est non seulement un témoignage, mais c'est un plaidoyer pour que la santé devienne priorité, ce qu'elle n'est peut-être pas toujours dans les hôpitaux publics.
C'est ma contribution à la lutte contre la pandémie et pour aider les gens. Effectivement, c'est resté pareil. Tous les gouvernements passent, il n'y en a pas un qui donne des crédits suffisants pour la santé. À l'époque, c'était 4%, mais ça n'a pas évolué.
Qui êtes-vous, Madeleine Riffaut, aujourd'hui? Est-ce que cet esprit de résistance, ce courage absolument exceptionnel dont vous avez fait montre quand vous aviez, dès l'âge de 15-16 ans et que vous êtes rentrée dans la résistance, cette femme engagée que vous êtes devenue ensuite, plus tard, en étant grand reporter de guerre dans tous les théâtres de guerre, est-ce que cet esprit de résistance vous tient toujours debout?
Ah oui, heureusement que je l'ai. Moi, je suis encore en vie. Moi, je me plains un peu de souffrances diverses, mais je peux vous parler, même si je parle difficilement, parce que j'ai une allergie aux particules fines.
Comme et vous avez quel âge aujourd'hui, Madeleine?
Dis donc, vous n'écoutez pas de radio, vous. J'ai eu 20 ans en 44, deux jours avant la libération de Paris.
Donc vous êtes une jeune alors?
Ouais, tu parles, j'ai 97 ans. Quand j'ai appris ça, je ne revenais pas. Parce que moi, je m'en fous de mon âge. Si je suis encore à peu près fréquentable, c'est parce que je ne pense pas à mon âge. Si, quand vous avez 75, 80 ans, si vous, par malheur, vous dites « Ah, je suis vieux » ou « Je suis vieille », eh bien, vous êtes vieille, c'est tout. Si vous n'y pensez pas et que vous vous occupez des autres, ben vous vieillissez pas, c'est tout. C'est pas difficile qu'on recette.
Oui, enfin si, c'est beaucoup plus difficile que vous ne le dites. Mais nous qui vous admirons, Madeleine, qui vous admirez-vous aujourd'hui?
J'admire des gens très simples. J'admire ceux que je connais, ceux que je vois tous les jours. Par exemple, les infirmiers. Moi, j'admire ces gens, mais ils sont des résistants. Ceux-là, j'ai dit souvent que les résistants d'aujourd'hui, c'est le personnel de santé. Point barre. C'est tout. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Une fois, il fallait applaudir. À 20h, il faut applaudir. D'accord. Qu'est-ce qu'elles sont devenues maintenant? On n'a pas fait suivre la soi-disant admiration. Il y a l'admiration des gens comme vous et moi. Mais, en haut, qu'est-ce qu'on fait? les paroles. On dit, quand il y a des visites officielles dans un hôpital, et les hospitaliers préparent des questions en disant, nous ne manquons de tout, n'avons même pas le nécessaire. On leur répond, c'est une question d'organisation. Mais, je regrette, c'est pas une question d'organisation. Il n'y a pas assez de crédit, il n'y a pas assez, c'est tout. Et l'animation, ben, ça coûte très très cher, tout ça. Et puisque le matériel, c'est le personnel qui manque. Personnel formé, il n'y en a pas assez. On en est à dire à des études en médecine, donnez-nous un coup de main. Bon, là, en ce moment, la pandémie recule. Elle ne recule pas partout, hein. En Europe, ce n'est pas, même pas le cas en ce moment. Mais ces femmes, elles sont épuisées, ces femmes et ces hommes. Il y en a qui deviennent fous. Vous savez, on en a très peu parlé. Pendant la grosse épidémie, on a fait appel à quelques internes, étudiants en médecine. C'est bizarre. Ils se sont suicidés. On l'a dit à la radio. Une fois, deux fois, on n'en a plus parlé. Pour moi, ça dit tout.
Vous, Madeleine, qui avez très tardivement, sur l'incitation d'une de vos camarades résistantes comme vous et de son mari, vous qui avez été témoignée dans les écoles, dans les classes, oui, pour dire ce que ça avait été la résistance, le combat contre le nazisme, etc., il reste de moins en moins de personnes pour aller faire ce travail de transmission. Il reste de moins en moins de personnes qui ont été acteurs et actrices de cette histoire. Oui. Comment on va entretenir la mémoire de cette résistance ?
Il y a des historiens qui sont là pour ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec certains historiens. Mais quand j'en entends de temps en temps, quelquefois je me dis, oh là là, il n'a pas compris. On ne peut pas être partout. La mémoire, c'est vrai que c'est un truc terrible. Il y a probablement encore, dans les provinces reculées, des hommes, des femmes qui ont été au plus bas niveau, pas connus, mais qui ont fait des choses. Mais ceux-là, ils ne s'expriment pas. Et puis, de toute façon, moi, j'en ai qui m'appellent souvent et me disent « Parle pour nous. Parle pour nous. À notre place. » J'en avais un comme ça. Il m'appelait souvent. Il avait été interné au camp de la mort de Mauthausen. Il me disait, Madeleine, quand je t'entends, je revis, tu sais. Il faut que tu parles pour nous. Nous, on ne sait pas. Toi, t'es journaliste, tu sais. Nous, on ne sait pas. On a appris qu'il était mort. Il n'y en a plus, il n'y a plus personne maintenant à la mécanique Mauthausen. Le problème de la mémoire, moi, j'ai compris que, mais je l'ai dit aujourd'hui sans doute, que, ben, qu'il fallait que je m'y mette, parce que je ne voulais pas. C'est douloureux, la mémoire, aussi. Il y a des trucs, on n'aime pas se souvenir de telles choses. Mais en ce moment, j'ai une mémoire tout à fait réveillée à cause de M. Jean-David Morvan.
Qui a fait ce si beau livre, le premier tome, parce qu'on attend avec impatience les seconds. Oh, mais je voudrais... Alors, on va anticiper un peu sur le travail de Jean-David, modestement. Jean-David nous laisse avec vous à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là où vous êtes illustrée héroïquement, Madeleine. Ensuite, on comprend que vous êtes partie en tant que reporter de guerre sur tous les théâtres de guerre, et que vous êtes engagé dans la presse militante.
Je n'ai pas milité pour tout, moi. Je suis très limitée, quand même. Parce que je n'ai jamais voulu être esclave d'un parti. Même quand j'ai travaillé, parfois, pour des journaux issus de la résistance, qui étaient dirigés par un communiste. J'ai toujours été un électron libre. J'ai écrit pour qui voulait me prendre. Et je n'ai pas écrit qu'en France. À partir de mes 40 ans, quoi, j'avais une chronique toutes les semaines à Paese Sera, un grand journal du soir italien. Je travaillais pour Action Badel, je travaillais pour Radio Luxembourg. J'ai envoyé 4 émissions quand même, depuis Hanoï bombardé jusqu'à Paris. c'était du sport, surtout la transmission. J'ai travaillé pour un agent, ils sont venus vers moi quand ils ont lu le reportage que j'avais pu faire avec un Australien qui était plus costaud que tout le monde, il s'appelait Wilfred Borchette. Il était le premier et le seul à être entré à Hiroshima 2 jours après la bombe. Il faut le faire, et il faut être inconscient aussi. Je suis bien malheureuse de ne pas avoir eu à ma disposition, quand j'étais journaliste, ce que vous avez, vous, maintenant. Nous, on n'avait pas de mobile portable, on n'avait rien.
Aujourd'hui, si vous exerciez vos activités de journalistique engagées, qu'est-ce que vous feriez? Vous donneriez autant la parole à des gens qui flattent les mauvais instincts de haine?
La parole aux gens qui n'en ont pas, qu'on n'écoute pas d'habitude, voilà. En admettant qu'ils veulent bien parler. Et puis, je ne raconterai pas des bêtises, comme il y a en ce moment, sur Picasso, par exemple. Moi, je suis prête à dire que ce n'est pas vrai, puisque j'ai connu Picasso. J'avais 20 ans. Moi, je sais quel homme merveilleux c'était. Sa générosité et tout ça.
Vous êtes quoi aujourd'hui? En colère?
Non. Triste.
Ah?
Je suis triste.
Pas résignée?
Je suis triste de pas pouvoir faire ce que je voudrais. Parce que je suis triste de ne plus voir les couleurs, de ne plus pouvoir lire le journal, d'avoir toutes mes vieilles blessures qui se réveillent et qui me rendent infirme. Et j'ai caché longtemps. Maintenant, je ne peux plus le cacher. Je ne peux plus le cacher. Lourd. Je suis aveugle.
Pourtant, j'ai l'impression qu'on se regarde, là, toutes les deux.
C'est bien.
Alors, devant vous, Madeleine, moi, je vois qu'il y a manifestement un verre avec peut-être du whisky, enfin, ça a la couleur du whisky, puis un verre avec du café ou du chocolat. Mais c'est plutôt le verre de whisky que vous prenez, là.
C'est du thé.
Ah, c'est du thé. Moi, qui croyais que vous aimiez le whisky.
Il y en a toujours bien.
C'est pas l'heure du whisky encore, alors?
Ben, si, il est là.
Ah, vous dites que c'est du thé, mais c'est du whisky.
Il y a les deux.
Il y a les deux.
Non, parce que c'est pour pouvoir vous parler. Parce que j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma gorge et dans ma bouche, quoi. J'ai eu la gueule cassée, et puis maintenant, ça ressort, il faudrait m'opérer, on peut pas, je suis trop vieille, et puis d'abord, je vais pas aller au saut pour attraper maladie nosocomiale, j'ai pas besoin de ça. Bon, enfin, c'est difficile pour moi de vivre.
Qu'espérez-vous de la vie, justement? Dernière question, Madeleine, qu'espérez-vous? Vous êtes heureuse aujourd'hui d'être enfin, de nouveau reconnu pour ce que vous êtes?
Écoutez, je m'en fous. Ça m'est égal. Moi, j'aime pas être humiliée. C'est l'humiliation qui m'a fait entrer dans la résistance. Et maintenant, je suis humiliée tous les jours. Parce que mon corps ne marche plus.
Oui, mais la tête, ça marche.
Oui.
Quelquefois plus tard. quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil vif, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ai bien pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnons, pensez à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer, au bord de la mer.
C'est avec Compagnons de Feu Chatterton que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore infiniment, Madeleine, de nous avoir reçus chez vous. Je rappelle que le premier tome de la bande dessinée qui vous est consacrée a été publié il y a quelques semaines. Cela s'intitule Madeleine Riffaut, résistante. Premier tome, La Rose dégoupillée. C'est un merveilleux album. Il est édité aux éditions Air Libre et il est co-signé par Bertaille, Morvan et Riffaut. Et Riffaut, c'est vous. Et puis je rappelle aussi la republication du livre Linge de la nuit, qui est consacré à votre expérience en tant que femme aidante et soignante dans un hôpital parisien, publié en 1974 et actuellement disponible. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Elodie Royer, Céline Villegas et Iris Vertanissian. Merci à Lilian Allôme qui a réalisé et monté cette émission. À la technique ce soir, il y avait Jérémy Thuil, que je remercie aussi. Et après le prochain journal d'information, vous avez bien évidemment rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.